Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonsoir à tous. Pour la dernière émission de cette année 2018, si mouvementée, je vous propose l'exploration d'une région du monde dont le nom seul fait rêver et qui concentre pourtant beaucoup des contradictions contemporaines. L'Amazonie. Le rêve hante les Européens depuis le XVIIe siècle, depuis que les Portugais remontèrent le fleuve Amazone à partir de la côte atlantique en espérant y trouver de fabuleuses richesses. Les contradictions, ce sont celles qui opposent aujourd'hui protection de l'environnement et développement économique, changement climatique à l'échelle du monde et priorité nationale, à commencer par celle du Brésil, qui possède quelque 2/3 de la forêt amazonienne. Le poumon vert de la planète, selon l'expression consacrée, filtre une bonne partie des excès de carbone que l'on tente de réguler. La dernière conférence sur le climat en Pologne il y a 15 jours s'est terminée sur un bilan bien maigre, tant les intérêts nationaux continuent de prévaloir. Dans 3 jours, exactement le 1er janvier, le président élu par les Brésiliens en octobre dernier, Jair Bolsonaro, entrera en fonction. Disciple de Donald Trump, il ne croit pas au changement climatique et menace de sortir son pays de l'accord de Paris. Quelles menaces sur l'Amazonie, quels enjeux en termes d'environnement, mais aussi de protection des populations autochtones? La déforestation va-t-elle s'aggraver, comme c'est déjà le cas dans d'autres régions du pays? Quel impact sur la régulation hydraulique et les relations avec les pays voisins? Que signifie enfin, dans un tel contexte, le développement durable? C'est ce que nous allons découvrir ce matin grâce à vous. Catherine Aubourtin, bonjour. Vous êtes économiste de l'environnement, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Avec nous aussi à Paris, Florent Collère, anthropologue, maître de conférence à l'Université de Tours, membre du Conseil national de protection de la nature. Par téléphone depuis l'Arizona, François-Michel Letourneau, merci mille fois d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et spécialiste de l'Amazonie brésilienne. Par téléphone, mais plus proche, puisqu'elle est à Montenier, le docteur Nelly De Mello Terry, vous êtes géographe, professeur de développement durable à l'Université de São Paulo. Et Martine Droulers, géographe, directrice de recherche émérite au Centre de recherche et de documentation sur les Amériques du CNRS. Madame Aubourtin, je commence avec vous pour que vous nous donniez une petite leçon de géographie. L'Amazonie, c'est où et c'est quoi?
Alors, l'Amazonie est considérée comme un grand bloc forestier qui couvre plusieurs pays. Et comme vous l'avez dit, c'est donc le Brésil qui a environ 2/3 de cette forêt amazonienne. Quand on parle de l'Amazonie, il faut faire attention entre ce qu'on appelle l'Amazonie légale au Brésil, c'est-à-dire un découpage administratif qui ne correspond pas tout à fait à la forêt. Mais on peut se mettre d'accord pour dire que l'Amazonie brésilienne recouvre 4 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 8 fois la superficie de la France, par exemple.
Mais elle concerne aussi tous les pays voisins, y compris la Guyane française, hein, qui en a un petit bout.
Elle concerne les 3 Guyanes, donc la française, le Suriname, l'ancienne Guyane hollandaise et le Guyana, le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et la Bolivie.
Pourquoi est-ce que l'Amazonie a une telle résonance? Est-ce que c'est dû à l'histoire des explorateurs portugais puis espagnols?
C'est un mythe assez intéressant, ce mythe de la forêt vierge, quand on sait qu'actuellement les études en écologie historique sont en train de nous montrer que toute l'Amazonie a été parcourue, cultivée depuis des milliers d'années. Et lorsqu'est arrivé sans doute les colonisateurs, il y avait environ 10 millions d'Amérindiens qui vivaient en Amazonie.
Donc la forêt n'a jamais été vierge, si j'ose dire.
On peut le dire comme ça. On peut supposer que ça soit même de la forêt auparavant. Alors, il y a un personnage tout à fait intéressant, un Américain qui était un grand explorateur, un naturaliste, qui a été aussi président des États-Unis, c'est Theodore Roosevelt. Il a été président, je crois, de 1901 à 1909. On lui doit d'ailleurs l'expression Teddy Bear. Hein,
c'est voilà. Le papa du nounours.
Et alors, en quoi est-ce qu'il s'est, lui, focalisé sur cette partie de l'Amérique du Sud ?
Lui s'est très intéressé, évidemment, à cette grande forêt, avec des velléités d'internationaliser la forêt amazonienne, c'est-à-dire la mettre sous la coupe évidemment des États-Unis. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver régulièrement. Maintenant, c'est sous la plume des écologistes de dire que la forêt amazonienne est tellement importante qu'elle doit être nationalisée.
Internationalisée. Ce qui ne plaît pas aux Brésiliens.
Ce qui exaspère les Brésiliens qui, pour eux, ne sont pas tellement attachés à cette Amazonie qu'ils considèrent comme une région, disons, arriérée, qui contribue pour très peu au produit intérieur brut, à la richesse du pays. Pour eux, l'Amazonie, c'est là où il y a encore quelques Indiens qu'ils considèrent également comme des populations qui n'ont pas intégré la modernité, ce que rappelle avec force le nouveau président de la République.
François-Michel Letourneau, merci encore une fois d'être avec nous par téléphone. Vous allez, dans quelques semaines, publier un livre au titre qui m'intrigue, « L'Amazonie, le malentendu occidental ». Pourquoi le malentendu ?
Et en fait, parce que quand les Européens ont débarqué en Amazonie, ils n'ont pas compris ce qu'ils ont vu et ils l'ont interprété à la lumière de leur culture. Donc, le premier exemple de ce malentendu, c'est l'Amazonie, le territoire des Amazones, alors qu'il n'y a pas d'Amazone et que les Amazones sont un mythe grec. Et donc tout est à l'avenant, en fait, quand l'Occident découvre l'Amazonie, elle veut l'interpréter selon les canons des paysages européens, et ça ne marche pas. Et depuis lors, nous sommes tout le temps en train de répéter la même erreur, d'essayer de transformer l'Amazonie en quelque chose qu'elle n'est pas, au lieu de la prendre pour ce qu'elle est.
Alors ce qu'elle est, c'est quand même la plus grande forêt pluviale du monde.
Oui, bien sûr, c'est une grande forêt, mais ce qu'on essaye de faire en Amazonie, enfin par exemple, l'Amazonie, c'est le symbole de la dispersion des ressources et de la diversité. Donc on a des arbres qui sont extrêmement divers sur une surface qui est réduite, et donc c'est difficile à exploiter. Et ce qu'on voudrait faire économiquement, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire avoir une exploitation intensive de ce milieu qui serait basée sur la concentration, et donc ça nous amène à des absurdités comme transformer cette forêt magnifique en champs de soja ou en pâturages qui sont extrêmement pauvres sur le plan de la diversité ou du carbone.
C'est aussi une immense réserve d'eau douce, hein ? Je crois un tiers de l'eau douce de la planète, c'est ça ?
Tout à fait, et ça nous amène aussi à un autre contresens, c'est-à-dire que la plus grande productivité biologique de l'Amazonie est concentrée dans ses eaux, et les efforts de développement se portent beaucoup plus sur les terres fermes et sur justement le remplacement de la forêt par des cultures, plutôt que sur le développement de pêcheries à grande échelle, ou même sur l'exploitation qui est favorisée du bétail par rapport au pêcher boy, au lamantin, qui donnerait la même quantité de viande de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus adaptée à l'Amazonie, ce que faisaient les Amérindiens avant que les Européens n'arrivent et ne dispersent leur système d'exploitation de l'espace.
Pour en revenir à la forêt, quand est-ce que son exploitation a démarré et à quel moment est-ce que la déforestation s'est accélérée ?
Alors, les Européens, dès qu'ils sont arrivés, ont commencé à essayer d'exploiter les ressources présentes dans la forêt, mais au départ, on parlait beaucoup plus de collecte, donc notamment la collecte du cacao sauvage, qui a été importante pendant un certain temps. Certaines de ces collectes étaient éventuellement destructrices, mais c'est surtout au XXe siècle que la déforestation à grande échelle est apparue, et principalement après les années 1950, avec un énorme accélérateur, à partir des années 1970, quand le gouvernement brésilien met en place des plans pour le développement de l'Amazonie sur le mode des grands plans économiques qu'on trouvait ailleurs dans le monde. Et donc l'idée était que ce qui rend l'Amazonie arriérée, c'est plutôt sa forêt. Donc il faut remplacer ce paysage qui, entre guillemets, ne sert à rien. L'un des grands problèmes de l'Amazonie, c'est que la forêt dite en pied n'a pas de valeur. Et donc transformer une énorme forêt en champ, en pâturage, c'est la valoriser sur le plan économique. Un hectare de pâturage vaut plus qu'un hectare complètement rempli d'arbres.
Quand s'est-on rendu compte que la forêt est extrêmement utile pour absorber les excès de, enfin, le gaz de carbone? À partir de quel moment est-ce qu'on s'est dit que cette forêt a cet usage-là qui est primordial? Pas du tout.
Oui, alors c'est pas forcément le plus primordial. En fait, la forêt représente un énorme stock de carbone. Savoir si elle est capable d'en absorber beaucoup plus est une question un petit peu débattue. Dans la mesure où les forêts les plus anciennes sont pas celles qui grandissent le plus vite, donc c'est pas forcément celles qui absorbent le plus de carbone. Donc le consensus, c'est plutôt qu'il y a un stock de carbone immense en Amazonie et qu'il vaut mieux pas le libérer dans l'atmosphère, ce qui est le cas quand on déforeste,
d'accord,
que le fait qu'elle en absorbe beaucoup. Par contre, l'Amazonie a une importance extrêmement grande sur le cycle hydrologique et notamment sur la régulation des pluies, non seulement sur l'Amazonie, mais probablement sur tout le sud du continent latino-américain.
Nelly de Mello-Terry, merci beaucoup d'être avec nous par téléphone de Montpellier. Je rappelle que vous êtes géographe, professeur en développement durable à l'université de São Paulo et vous avez occupé, je crois, plusieurs postes de direction au secrétariat d'État, à la coordination des affaires amazoniennes au Brésil. Il y a eu des efforts pour protéger cette immense zone amazonienne au Brésil. Depuis quelle époque à peu près?
Si je peux dire, la partie plus importante devient depuis la nouvelle constitution brésilienne en 1988. À partir de cette date-là, toute la question liée à conservation d'environnement fait partie des principes du peuple de la nation brésilienne. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts, mais au même temps, vous avez dit déjà, il y a aussi beaucoup de contradictions.
Par exemple,
la question d'avancer des activités économiques vers la forêt, les politiques de régularisation foncière, actuellement a beaucoup d'invasions dans les aires qui sont protégées pour la conservation d'environnement. Mais aussi, par exemple, vous venez de dire sur la question de l'eau et la quantité de l'eau qu'on a en Amazonie. Mais on peut dire qu'il y a des populations riveraines qui n'ont pas de l'eau de qualité. Hein. Ils habitent à côté des plus grands fleuves du monde et en même temps, ils n'ont pas de l'eau de qualité pour boire. Alors, c'est ce type de contradiction. D'un côté, les populations locales. De l'autre côté, la population, la migration pour les activités économiques, mais aussi pour l'agrandissement des propriétés, l'établissement des propriétés rurales et aussi des politiques qui sont contradictoires, les politiques des infrastructures, par exemple, les politiques environnementales, c'est normalement une politique à côté.
Mais on comprend bien que c'est évidemment un enjeu politique majeur au Brésil depuis la Constitution de 1988 à laquelle vous faisiez allusion. Cette Constitution consacre pour les ethnies amérindiennes le droit d'occupation des terres ancestrales. Ça, c'est inscrit, ou c'est protégé en tout cas, sous l'égide de la Constitution.
Oui, et ça, c'est une des politiques qui a beaucoup avancé depuis la Constitution. On a aujourd'hui presque tous les Indiens, les groupes indiens ont leurs terres déjà ou démarquées ou déjà homologuées à les droits dédiés à les indigènes. Ça veut dire que ce sont des territoires indigènes dans la nation brésilienne, dans le territoire brésilien. Et c'est ça, et c'est dans ces territoires que les Indiens peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce sont à eux.
Et donc, il y a, d'après les chiffres,
D'après les chiffres que j'ai trouvés, mais peut-être me corrigerez-vous, il y aurait donc à peu près 900 000 indigènes appartenant à 305 ethnies différentes, 274 langues différentes. Et bien évidemment, ces terres ancestrales, elles sont en but à la convoitise des colons et des agriculteurs qui veulent faire progresser encore les cultures de soja auxquelles en particulier François Michel Le Tourneau faisait allusion.
Vous avez raison par rapport les chiffres que vous nous a donné, mais là on peut regarder de façon différente. Les indigènes sont plus au littoral du Brésil, dans la côte, dans la région plus littoraine, plus des colonisations portugaises anciennes, là, les terres sont vraiment très, très petites. Au contraire, en Amazonie, les terres indigènes, elles sont grandes. Il y a eu différentes politiques indigènes, mais à la fin, on peut voir des grands territoires dédiés, donnés aux indigènes. Et là, il y a une autre contradiction. Il y a quelques groupes qui décident aussi de louer, par exemple, leurs terres pour l'avancée du soja, pour l'avancée des activités économiques. Et c'est un petit peu, disons, trois situations très différentes les unes des autres. Mais en gros, aujourd'hui, la décision, c'est la décision des indigènes. Mais cette constitution que je vous avais dit, elle a aussi donné les droits à des autres populations, voire les Noirs, les descendants des esclaves au Brésil, qui ont aussi les droits d'avoir ces territoires. Alors, ça, ce sont des situations très, très distinctes.
Merci beaucoup, Madame Demélie, d'avoir été avec nous par téléphone. Florent Collet, on ne vous a pas encore entendu. Oui. Vous êtes spécialiste de cette partie du monde et de ces problématiques à la fois d'environnement et de développement. On comprend bien que l'Amazonie, la manière d'exploiter ces richesses, ça a été évidemment un enjeu politique au Brésil. Le Congrès brésilien, comme on dit, a toujours comporté, je crois, un groupe qu'on appelle les ruralistes, c'est ça ?
Ruralistes, oui.
Voilà. Qui sont quoi ? Les propriétaires fonciers, tous ceux qui poussent
Tout ce qui est lié à l'agroalimentaire, en fait. Hein. C'est bœuf, soja, bientôt huile de palme, sucre et d'autres cultures, mais aussi les circuits de distribution et de transformation qui sont associés. Donc c'est un énorme groupe de pression, d'autant que la balance commerciale du Brésil est équilibrée ou en excédent grâce à cette production et à ces exportations. C'est essentiellement des cultures d'exportation, comme tout pays en développement. C'est-à-dire une agriculture primaire qui rend le Brésil extrêmement dépendant des fluctuations de cours, comme il l'a toujours été avec le café, avec le sucre.
Et maintenant avec le soja et avec la viande de bœuf. Alors on sait que ce groupe de ruralistes a évidemment soutenu à fond Jair Bolsonaro lors des dernières élections présidentielles au Brésil en octobre dernier. Donc monsieur Bolsonaro va entrer officiellement en fonction le 1er janvier, dans 3 jours. Qu'est-ce qu'il faut attendre de sa politique concernant cette partie-là du pays ?
Alors, d'abord, les ruralistes ne mettent jamais leurs yeux dans le même panier. Hein. Donc, la grande représentante, la plus grande fazendeira du Mato Grosso, je crois, qui s'appelle Katia Abreu, a été ministre sous Dilma Rousseff et a été vice-candidate auprès d'un autre candidat concurrent de Jair Bolsonaro. Donc, de toute façon, ils ont infiltré toutes les structures politiques. Ce qu'il faut attendre de l'élection de Bolsonaro, c'est que le Brésil poursuit depuis depuis les militaires, une politique de développement à tout craint, ce qu'ils avaient déjà manifesté à Stockholm en 72. Hein, nous, notre priorité, c'est la misère, sortir de la spirale de la pauvreté. Et si on doit exploiter jusqu'au bout nos ressources pour cela, eh bien, on le fera. Résultat, la misère a certes régressé sous Lula, mais bon, pas de manière fulgurante quand même. Le niveau d'éducation n'a pas vraiment augmenté. Et cette logique qui s'est très bien coulée dans l'idée de développement durable, c'est ok, on détruit moins vite, mais notre priorité c'est le développement économique, première chose. Ensuite, les problèmes sociaux et troisième chose, l'environnement. Sauf que le Brésil a toujours eu un contre-pouvoir, c'est le regard de l'extérieur. Il y a une expression au Brésil qui dit « para inglês ver », c'est-à-dire « pour que les Anglais voient ».
Et pourquoi et donc, les Anglais?
Parce que c'était les Anglais qui ont financé le développement du Brésil à la fin du 19e. Et,
donc c'était plus chic.
Voilà. Et, oui. Et donc cette politique de développement à tout craint a toujours été un peu résorbée, enfin disons atténuée par le regard international, les pressions internationales et puis l'aide internationale.
Une aide considérable quand même.
Considérable, oui. Alors,
à partir
alors
de
que
quand?
Je note qu'un pays comme l'Indonésie n'a strictement rien à faire, hein, donc pression, pas pression, ça.
Et le Brésil, avec Bolsonaro... Tout en recevant aussi beaucoup de subventions internationales.
Pour l'Indonésie, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Bolsonaro, maintenant, on est entré dans une logique trumpienne, c'est-à-dire l'opinion internationale, je m'en fiche. Et ce dernier rempart de... on fait quand même attention parce qu'on veut être bien vu, a sauté.
Il faut quand même rappeler quelques chiffres hein, sur la manière dont le G7 en particulier, ça je crois que c'était en 2004, a accordé... quelques milliards, 12 milliards de
dans
dollars.
Dans mon souvenir, c'était 12 milliards, ça doit tourner autour de 10, je pense.
Et donc ça, c'était quoi? Pour construire une agence de protection?
Alors, il existait une agence de protection de l'environnement, l'IBAMA, hein, qui a une très grande notoriété au Brésil, hein, une réputation à... relativement mérité d'incorruptibilité et autres, bon, c'est surtout la nouvelle génération, mais jusque dans les années 2000, c'était des vieux agents qui habitaient sur place, qu'on désignait et qui effectivement n'avaient pas de compétences particulières. Le programme ARPA, donc lancé par le PPG7, a permis d'équiper, de recruter, c'est-à-dire de lancer des concours de recrutement de gens de haut niveau, pour à la fois gérer les aires protégées et effectuer tous les contrôles et ce qu'on appelle les licences environnementales, hein, attribuer des droits
d'exploitation,
des études d'impact, etc. La première chose qui a été faite pour affaiblir, alors donc beaucoup d'argent a circulé, des véhicules tout terrain ont été achetés, des hors-bord, tout ce que vous voulez, des hélicoptères, mais la première chose qu'on a fait pour affaiblir ça, ça a été de séparer les deux fonctions de gestion des aires protégées d'un côté et de licence environnementale de l'autre, première chose. Et puis finalement, comme on l'a vu, hein, c'était un peu comme quand le président amnistiait en fin d'année les excès de vitesse. Régulièrement, il y a des amnisties concernant les crimes environnementaux, ce qui fait que lorsqu'une nouvelle loi est en préparation, soi-disant plus en cadre avec la réalité, plus applicable parce que plus réaliste, eh bien, la déforestation subit des pics. Et ça a été le cas en 2012 avec la préparation d'une réforme du code forestier qui, pour le coup, était le fait de Dilma Rousseff sous la pression des ruralistes.
Mais évidemment, le principe, c'est toujours d'intégrer cette immense partie du territoire à l'économie nationale et de faire en sorte qu'elle bénéficie à l'économie nationale.
Il y a aussi, oui, alors il y a ça en partie, même si en réalité l'argent du soja n'irrigue pas les écoles brésiliennes, hein, n'irrigue pas la santé des Brésiliens, les dispensaires. Donc voilà, c'est pas non plus la richesse nationale au sens de richesse qui serait repartagée.
François-Michel Le Tourneau, je retourne vers vous. Est-ce que vous considérez que les risques d'accélération de la déforestation, et il faut bien voir ce que ça veut dire, et les photos aériennes sont absolument incroyables, parce qu'on voit des zones entières coupées au cordeau, et qui dit déforestation, dit route, et dans les routes s'engouffrent évidemment tous ceux, et notamment beaucoup de chômeurs après la
terrible récession au Brésil il y a quelques années, qui cherchent de l'or. Enfin, il y a toute une cohorte de gens qui grignotent, si j'ose dire, la zone amazonienne.
Oui. Je pense qu'il faut voir plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut quand même pas oublier que le Brésil a fait un effort assez considérable pour réduire la déforestation dans les années 2000. Elle a été divisée par 5, elle a re-augmenté récemment, mais on est quand même aujourd'hui très loin des niveaux qu'on atteignait au début des années 2000. Donc on était à 25 000 km² de forêt en moins, donc à peu près une Bretagne rasée chaque année. Et là, on est autour de 7-8 000, donc c'est beaucoup. Mais c'est moins. Alors après, oui, c'est plutôt le phénomène est plutôt inverse, c'est-à-dire c'est plutôt les routes qui amènent les changements d'occupation des sols et donc la déforestation. Cela étant, c'est pas une armée de miséreux brésiliens qui va vers l'Amazonie, parce que en fait, la plupart des chômeurs et des gens qui ont été touchés par la crise économique cherchent plutôt leur salut dans les villes. Oui. En fait, c'est une partie très spécifique de la population brésilienne qui a encore envie de, on va dire, d'affronter la nature amazonienne dans ces conditions-là. Et donc, c'est beaucoup plus des investissements de la part de personnes qui sont, on va dire, dans un monde un peu interlope entre le légal et l'illégal pour tout ce qui est exploitation forestière, exploitation minière, etc.
Pour revenir sur la
question de la protection, je pense qu'une chose importante que les Brésiliens font souvent valoir, est de dire, l'Occident, l'Europe, les États-Unis veulent beaucoup qu'on protège la forêt amazonienne, mais tout cela a un coût, et vous n'êtes pas prêt à mettre l'argent correspondant sur la table. Malheureusement, il n'y a pas eu 12 milliards pour le programme ARPA, c'est moins. Mmh. Et d'une manière générale, entre les investissements productifs et les investissements de production, il y a toujours un rapport de 1 à 50 ou de 1 à 100. Donc c'est là le problème, c'est que la forêt en elle-même, même en termes de subventions de pays externes, rapporte beaucoup moins que ce qu'on met à la place de la forêt, et c'est tout le problème.
Et on évalue à peu près à quoi? À 10% du PIB brésilien, les ressources issues en quelque sorte de cette partie-là du pays.
Le PIB des États amazoniens, c'est un petit peu moins de 10% du PIB brésilien pour un petit peu moins de 10% de la population. Donc, on s'y retrouve grosso modo. Cela étant, une grande partie de ce PIB provient de l'activité générée par les villes et par les administrations. Donc, si on regarde ce que réellement rapporte l'Amazonie pour la nation brésilienne en termes de taxes, en termes d'activité économique, c'est effectivement très faible. C'est une très grosse partie de leur territoire qui rapporte très peu. C'est leur Larzac à eux.
Leur Larzac à eux, oui, à une échelle évidemment qui donne le vertige.
Voilà, un petit peu plus grande.
Oui. Catherine Aubertin, s'agissant du rôle de la forêt par rapport à l'environnement, par rapport aux mesures qu'a la communauté internationale, ou ce qu'on appelle ainsi, en tout cas s'efforce de concrétiser, cette forêt a véritablement une importance primordiale?
Je ne pense pas que la forêt ait une importance pour l'économie brésilienne. L'économie brésilienne se...
Non, pas pour l'économie brésilienne, pour la planète.
Ah, pour la planète, là. Pour la
C'était
planète,
ça ma question.
Important. Mais même pour la planète, je pense qu'il faut considérer autre chose que la forêt. Tous les écosystèmes du Brésil, tous les écosystèmes d'ailleurs de la planète, ont leur importance. Au début de cette émission, on a vu la fixation un peu mythique qu'on a sur la forêt. Je pense que un écosystème comme le Cerrado, c'est-à-dire comme les savanes centrales du Brésil, qui couvrent un quart de la superficie brésilienne sont tout aussi importants. On a parlé du soja, le soja, la canne à sucre pour l'éthanol, c'est pas en forêt amazonienne qu'on va les trouver, hein, c'est bien dans le Cerrado. Nelly tout à l'heure a parlé des réserves indigènes. La majorité des réserves indigènes sont effectivement en Amazonie, de l'ordre de plus de 90%, mais la moitié des Amérindiens vivent en dehors de l'Amazonie. Certes, ils sont peut-être moins exotiques
à nos yeux, mais ils sont bien là et dans des conditions nettement plus misérables que les,
oui,
que les Amérindiens.
Avec des modes de vie évidemment bouleversés
voilà,
depuis des générations maintenant.
On parlait aussi de l'importance de l'eau. Il faut voir que le Cerrado est vraiment le château d'eau du Brésil. Les principales rivières qui vont nourrir l'Amazonie et autres viennent aussi, les plus grands fleuves brésiliens prennent leur naissance dans le Cerrado. Donc moi je suis très attachée à défendre le Cerrado aussi, pas en opposition à l'Amazonie, mais pour montrer que plus on va protéger l'Amazonie, plus on va dévaster le Cerrado. On parlait, François Michel m'a expliqué bien là, c'est les déforestations qui ont baissé ces dernières années. Sur toutes ces années, la déforestation dans le Cerrado, en termes absolus, était supérieure à la déforestation qu'on a connue en Amazonie. Et même, elle était le double dans les années 2012, 2013, 2014, 2015. La déforestation en termes absolus dans le Cerrado était le double de celle de l'Amazonie. Mais effectivement, ce ne sont pas des forêts.
Cette région dont le nom nous est moins familier à la plupart d'entre nous, ça représente quelle proportion
Ça représente un quart du Brésil. Ce sont les savanes centrales que l'on va trouver, qui sont aussi des hotspots de biodiversité et qui, en termes de carbone, ont un rôle extrêmement important, en particulier par leur système racinaire en termes de captage de carbone. Donc, ce sont les régions dynamiques sont dans ces endroits-là. Et la nouvelle réforme du code forestier, par exemple, autorise à déforester 80% des propriétés privées du Cerrado. C'est-à-dire qu'il y a encore 400 000 km² qui pourront être défrichés tout à fait légalement. Alors qu'en Amazonie, la loi impose de défricher que 20% des propriétés. En Amazonie aussi, les aires protégées sont extrêmement importantes. Si on additionne les réserves indigènes, si on additionne les unités de conservation, plus de la moitié de la forêt brésilienne est sous protection. C'est ça aussi qui agace les Brésiliens. La moitié de la forêt est sous protection, soit en unité de conservation, donc soit en réserve indigène. Et il faut ajouter les propriétés privées qui n'ont pas le droit, bon, c'est sur le papier bien sûr, mais qui n'ont pas le droit de déforester plus de 20% des propriétés. Donc 80% doivent rester en végétation originelle.
Donc, autrement dit, l'Amazonie ferait l'objet de plus d'efforts relativement et de plus d'attention en tout cas de la part
de la communauté internationale.
De la communauté internationale. Éric Scholl, bonjour. Vous dirigez Courrier International, notre partenaire. Vous avez trouvé évidemment dans la presse internationale des papiers très intéressants sur la manière dont la technologie, les progrès scientifiques peuvent aider à protéger davantage cette zone amazonienne. J'ai vu, moi, un papier qui m'a intriguée, c'est que, grâce à un drone, une tribu amérindienne dont on n'avait pas idée a été découverte en 2017. Enfin, l'information a été révélée...
À
l'automne dernier, mais c'est tout à fait sidérant. Donc, on peut envoyer des drones au-dessus de...
Oui, des drones et beaucoup de nouvelles... Et pas seulement des drones, des robots, des nouvelles technologies. Alors, il y a un papier qui est paru dans le journal espagnol El País qui raconte la mise en place, depuis le printemps dernier, d'un projet scientifique et très ambitieux qui permet, en fait, d'étudier en temps réel les relations qu'entretiennent les animaux et la flore dans cet écosystème système amazonien. Ce programme est baptisé Providence et il s'appuie sur une quarantaine de chercheurs. Alors, il y a évidemment des Brésiliens, mais aussi des Espagnols, des Australiens, des Français. Et ce programme se déploie au cœur de l'Amazonie brésilienne avec des technologies sophistiquées pour aller sonder en fait les mystères de cette forêt tropicale. Dans ce grand reportage qu'a consacré donc le quotidien El País, eh bien on revient sur quelques données qu'on avait abordées au début de cette émission, c'est-à-dire que cette forêt abrite pas moins de 2500 espèces d'oiseaux, autant de poissons et au moins 16 000 variétés d'arbres. Et pour mieux comprendre les rouages de cette forêt, eh bien ce programme a été chercher des spécialistes à la fois du génie électrique, de l'intelligence artificielle, naturelle, de l'informatique, de l'électronique ou encore de la biologie. Et c'est ainsi, nous raconte le journal, que des panneaux solaires ont été placés à la cime des arbres. Ils alimentent en énergie des dispositifs dotés de caméras et de micros. Comme Big Brother, ils enregistrent les activités de la faune et envoient ces données via Internet à des milliers de kilomètres de là, écrit El País. Et voilà comment, à distance, on voit apparaître des images d'animaux où on peut écouter le comportement du dauphin rose ou du crocodile bleu. Car les sons sont très précieux pour comprendre les interactions de la forêt. Nous pensons plutôt à des images quand nous évoquons la vie des animaux, parce que leur comportement nous touche, mais les sons peuvent être beaucoup plus efficaces, explique un des chercheurs de ce programme Providence, interviewé par El País. Grâce à cette collecte des sons, la forêt amazonienne se transforme, nous dit-il, en un orchestre symphonique dont les mélodies sont aujourd'hui essentielles pour en savoir plus sur l'état de la santé de la plus grande forêt tropicale au monde, menacée par l'expansion d'élevage commercial, par certaines monocultures ou encore la construction de centrales hydroélectriques ou bien des routes.
Et la cartographie a aussi fait beaucoup de progrès grâce à la 3D.
Grâce à la 3D et aux drones. Et elle peut s'avérer très utile aux habitants de cette forêt. C'est en tout cas l'espoir de Wendy Pineda, qui est une cartographe péruvienne et qui, c'est le journal en ligne espagnol Altair qui nous raconte cette histoire, eh bien, Wendy Pineda forme des tribus amazoniennes afin qu'elles puissent représenter leurs terres et les dégâts causés par leur paillage clandestin. Le journaliste d'Altair a suivi cette femme ingénieure topographe à l'est du Pérou, dans la forêt amazonienne de Madre de Dios. Et ici, raconte-t-il, leur paillage illégal a transformé cette partie de la jungle en paysage lunaire. Les hectares de marais et de gorges profondes ont été remplacés par une pampa desséchée. On dirait que tout ce qui était vert a été rasé. Les chants des oiseaux et les hurlements des singes ont disparu. Et c'est précisément donc dans cette région que Wendy Pineda aide depuis maintenant une dizaine d'années les communautés autochtones à dresser leurs propres cartes. Et grâce au financement d'une ONG néerlandaise, elle a conçu un programme pilote pour former une tribu locale au maniement d'un drone. Il s'agit d'un robot volant de la taille d'une valise, doté d'une caméra et de 4 hélices, précise le journaliste. Ce drone, que les habitants ont surnommé l'abeille tueuse à cause du bourdonnement des hélices, se positionne au-dessus d'un site d'orpaillage clandestin. Et Wendy Pineda explique que les photos et les vidéos que l'appareil va prendre créeront une mosaïque d'images qui permettra de réaliser une carte détaillée du territoire touché par ces activités. En réalité, ça fait en fait plusieurs années que les peuples autochtones utilisent cartes, coordonnées et images pour montrer ce qui se passe vraiment sur le terrain et pour tenter de faire valoir leurs droits face aux entreprises minières ou pétrolières. Mais grâce à ce programme de cette cartographe péruvienne, Wendy, eh bien pour la première fois en Amérique latine, un village de l'Amazonie manipule son propre drone, utilise tablette et GPS pour surveiller la forêt, conclut notre journaliste d'Altaïr.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Martine Droulers, je vous remercie d'être au téléphone avec nous. Vous êtes géographe, directrice de recherche émérite au Centre de recherche et de documentation sur les Amériques au CNRS. Revenons sur les ressources en eau et sur la manière dont ces ressources sont exploitées en Amazonie et en particulier dans la partie brésilienne, parce qu'il y a eu évidemment énormément de controverses à propos de, en particulier de barrages, d'immenses barrages.
Oui, alors on connaît tous dans la presse le barrage de Belo Monte, qui est sur un des affluents de rive droite de l'Amazone et qui a rassemblé, concrétisé toutes les oppositions depuis l'année 1989 où il avait été lancé, donc vous voyez c'est ancien, et le barrage fonctionne maintenant depuis quelques années. Donc le temps de régler les conflits, plus ou moins, enfin, et de faire passer un programme de construction de barrages hydroélectriques en Amazonie pour intégrer l'Amazonie au système électrique national. Parce que l'Amazonie était isolée jusqu'au début des années 2010, isolée, c'est-à-dire que son système était fait de générateurs électriques au diesel, ce qui n'est pas écologiquement extrêmement correct. Il fallait remonter les fleuves avec des barges pétrolières pour alimenter tous ces générateurs. Et donc, il y avait un barrage en Amazonie orientale qui avait été fait récemment et qui était, enfin, dans les années 80, je veux dire, et qui était raccordé au nord-est et au sud-est. Mais tout le reste de l'Amazonie n'avait pas d'intégration. Et donc, mais comme les barrages ennoyaient de grandes zones, puisque l'Amazonie est une grande plaine, quand on faisait un grand barrage, un lac réservoir de plus de 2000 km² était lancé. Donc, il y a eu toutes des oppositions à ce système de construction des barrages. Mais, donc 20 ans d'arrêt. Mais le Brésil a toujours besoin d'un peu plus d'énergie électrique, une moyenne de 5% par an. Et pour les pays voisins, c'est pareil, la Bolivie, le Pérou, la demande en électricité augmente de 5% par an depuis 20 ans.
Mais donc, précisément, oui, pardon, je vous interromps, mais oui, précisément, oui, les relations avec les pays voisins, donc on voit, oui, bien que toutes sortes de pays alentours sont concernés par ces barrages. Est-ce qu'il y a un partage ou une distribution?
Alors justement, dans la relance du programme hydroélectrique brésilien, au moment du président Lula, vers 2003, il y a eu des accords, en particulier avec le Pérou, pour l'aménagement des affluents du Rio Madeira. Parce que le Brésil commençait ses deux grandes hydroélectriques quand il y avait toute l'opposition sur Belo Monte. À 1000 km de là, on construisait deux énormes centrales électriques. Et en amont de celle-ci, il devait y en avoir deux, trois autres, une en Bolivie et deux au Pérou, pour compléter le système. Et les Péruviens avaient fait un accord avec le Brésil sur ce programme. Bon. Depuis 2008, depuis la crise, les pays se sont un peu retirés et le Pérou a enlevé ce programme en 2012. Mais néanmoins, les études préliminaires ont été faites et on sait que dans les barrages, ça peut ressortir longtemps après. Hein. Et jusqu'à... Mais les deux du Madeira ont été faits et sont reliés avec la région de São Paulo par une ligne de transmission à haute tension de 2500 km, donc vous voyez déjà les infrastructures, mais peu à peu, l'Amazonie est dans le système électrique national, c'est-à-dire quand il y a des périodes de basse eau, qu'il y a moins d'eau à turbiner, et puis aussi ces nouvelles centrales hydroélectriques sont des turbines au fil de l'eau. Alors là, c'est une nouvelle technique, une nouvelle, pas tellement, mais... qui a été employé en Amazonie pour éviter de faire ces grands lacs de retenue et les réduire de beaucoup en mettant une série de centrales au fil de l'eau, ce qu'on appelle qui sont donc horizontales au lieu d'être verticales.
Et donc ça veut dire qu'il y a moins de destruction de l'environnement. Exactement. Et il y a moins besoin de routes. Enfin, il n'y a pas les saignées des routes dans la forêt.
Voilà. Donc on va vers des techniques de moindre impact écologique. Et aussi, il y a tout un système de compensation financière qui est fait. Par exemple, pourquoi celles du Madeira ont été acceptées? Eh bien, c'est que les habitants se sont prononcés pour ces usines en majorité. Mais bon, de toute façon, c'est toujours le conflit entre l'environnement et le développement. Hein. Mais les compensations font qu'il y a un certain nombre de retombées sur les territoires. Mais enfin, il y a encore un problème de fiscalité, c'est que les zones productrices reçoivent moins de paiements, de financement que les zones consommatrices d'électricité. Ça, c'est encore un problème de la législation brésilienne. Mais pour vous montrer toutes les difficultés, enfin ce qui a été évoqué avant, hein, les difficultés entre le développement et l'environnement. Au début du gouvernement Lula, il y a eu une forte pression pour que le socio-environnementalisme progresse et s'installe dans un ministère de l'environnement fort. Mais à partir de 2007-2008, il y a eu des inflexions et le socio-environnementalisme a été un peu mis de côté pour que le socio-développementisme, comme disent les Brésiliens, revienne.
Ça, là, vous traduisez du portugais, là, quasiment, là. Le socio-développementalisme.
Développementalisme. Donc on est passé du socio-environnementalisme, qui est un peu une invention brésilienne, hein, autour de l'Ibama et tout ça, au socio-développementisme.
Socio-développementisme. Martine Roulers, merci mille fois d'avoir été avec nous. Florent Koller, jusqu'à quel point est-ce que ces néologismes contribuent à résoudre les contradictions que vous tous nous décrivez depuis le début de cette émission?
Alors, Martine, une grande spécialiste des barrages, une remarque, l'altération du régime de pluie en Amazonie est telle que même les centrales à fleur d'eau risquent de se trouver à court d'énergie, donc à court d'eau.
Pourquoi? Parce qu'il y a de telles variations.
Il y a toujours eu des très grandes variations, mais les rivières n'ont jamais été à sec. Or là, le Rio Madeira a justement connu des périodes de sécheresse où on traversait à pied. Donc on est dans une situation gravissime. En pensant à court terme à des de l'approvisionnement en électricité, alors que c'est la survie même du cycle. Je sais bien que Catherine a raison de souligner que le Cerrado, le Brésil a obligation de le protéger selon la Convention sur la diversité biologique de 92. Hein.
Le Cerrado, qui est donc cette immense région qui est en dessous de l'Amazonie.
Tout pays a obtenu la patrimonialisation de sa biodiversité en échange d'une obligation de protection. Donc la raison géopolitique majeure pour laquelle le Brésil ou l'Indonésie ne devraient pas détruire leurs forêts, c'est la même raison qui fait qu'on est censé maintenir notre population d'ours, des obligations internationales. Bien. D'autre part, il y a une chose, c'est que on aborde entre gens sérieux, on parle d'économie, on parle de géopolitique ou autre. Il y a tout concourt à ce que l'Amazonie saute, tout concourt à ce que les forêts tropicales sautent. Pour les raisons que Jean-Michel a expliquées.
Qu'elle
François
saute,
Michel.
Vous voulez dire.
Qu'elle saute, oui, qu'elle soit détruite.
Pour
10 000 raisons différentes, pour pression de population dans les forêts africaines, mais aussi au Brésil, les paysans sans terre, pression des multinationales pour distribuer du soja ou autre, pression des gouvernements eux-mêmes pour se développer. Et on perd de vue une chose essentielle qui devrait maintenant faire son chemin quand même, parce qu'il y a des conventions internationales qui se développent et qui sont jurisprudentielles. On introduit des concepts, certains complètement flous comme le développement durable, mais d'autres qui surgissent comme la solidarité écologique ou la nature comme personnalité juridique, telle que la Nouvelle-Zélande l'a reconnue. Ce sont les seuls éléments, la justice environnementale, le seul moyen de surmonter ces affaires de gens sérieux que sont l'économie, les coûts-bénéfices et autres, c'est de dire la loi dit que la nature a des droits. La Nouvelle-Zélande l'a fait. La Colombie, la Cour suprême de Colombie...
Mais vous voyez le Brésil de Bolsonaro faire ça au moment où il refuse d'accueillir la prochaine COP.
Mais il y a une séparation des pouvoirs.
Il a dit ça, hein, pas question que le Brésil accueille la prochaine COP 25.
Non, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il existe un suprême tribunal fédéral au Brésil. C'est pas une question de politique. Les scientifiques se sont adressés à l'exécutif. Ils se sont adressés aux parlementaires qui est inféodé à l'exécutif. Maintenant, on doit se tourner vers le judiciaire. Et c'est ce que fait la population. Il y a des procès à Amsterdam, en Hollande, pour que le gouvernement fasse...
À la Cour internationale de justice.
Oui, le procès Monsanto, mais aussi les affaires de poursuivre son gouvernement pour les affaires climatiques, pour ne pas tenir compte du fait qu'on ne tient pas compte des intérêts des générations à venir. Il y a une jeune fille, c'est l'affaire Juliana versus United States en ce moment. Eh bien, c'est le pouvoir judiciaire qui a le pouvoir de dire, eh bien, à un moment, c'est bien les discussions sur l'économie ou autre, mais la nature a des droits, les générations futures ont des droits. Moi, je m'en veux d'avoir des enfants aujourd'hui. Je sais pas,
vous nous dites ça en fin d'année.
Non, mais c'est vrai, je suis désolé. C'est horrible à dire, parce que j'en ai deux tout petits. J'en ai deux petits. Mais
j'espère qu'ils vont pas écouter l'émission.
Parfois, on se dit, ah, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et maintenant, je pense, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Et finalement, je me rends compte, et en discutant avec mes collègues et mes collaborateurs de différentes plateformes, que finalement, il y a que le judiciaire qui puisse faire quelque chose. Il y a des jurisprudences internationales, on s'y réfère, on fait des procès, le judiciaire tranche et on crée une jurisprudence.
Il y a un cas qui intéresse la Guyane française, ce sont des permis d'exploitation, des permis de forage pétrolier au large des côtes que demande Total. Le Brésil vient de refuser à Total des permis de forage, si j'ai bien compris,
dont les caractéristiques sont à peu près semblables au cas guyanais. Est-ce que, Catherine Aubertin, vous suivez Florent Collère dans cette idée que désormais, le seul recours possible, c'est le judiciaire et cette affaire de forage pétrolier, est-ce qu'on voit que plusieurs associations en Guyane française, évidemment, sont hostiles et protestent et demandent au gouvernement d'annuler ces autorisations. Est-ce que c'est la voie à suivre?
Ça peut être une voie. Total, même, je crois, est en train d'abandonner ses forages en Guyane. Mais si vous parlez du cas de la Guyane française, c'est surtout ce qui est important actuellement, c'est toute l'agitation autour du projet qui s'appelle Montagne d'Or, qui est une très très grande mine d'exploitation d'or à ciel ouvert, qui est en train de mobiliser toutes les ONG et tous les défenseurs de l'environnement, y compris des associations amérindienne sur place. Et probablement, le gouvernement français va avoir à reculer devant l'exploitation. Je rejoindrai l'aspect juridique dans la mesure où actuellement, pour faire reculer, ce sont vraiment les mobilisations et le passage à la justice qui est l'appel à l'international qui permettent de faire reculer ce genre de méga-projet contre l'utilisation des ressources. Mais le problème reste là. Les gouvernements veulent utiliser leurs ressources naturelles et effectivement, il y a un blocage souvent avec l'environnement. Mais moi, je suis pas aussi négative en Amazonie. Enfin, si je vous dis qu'il reste encore 20% du massif amazonien, que à ce rythme de 7000 kilomètres par an, eh bien, ça fait que on en mettra encore 500 ans, plus de 500 ans à détruire.
Catherine,
il restera encore quelque chose en Amazonie, mais là, je provoque un peu.
Non, mais oui, c'est une provocation malvenue. François Michel dit le taux a beaucoup diminué. D'accord, mais annuellement, 7000 kilomètres carrés, ça fait quand même beaucoup. Ça fait 7000 kilomètres carrés.
Ça fait 2 pour 1000. Moins de 2 pour 1000.
L'Amazonie a perdu 30% de sa surface en 40 ans. Tu dis qu'en 500 ans,
elle va...
Non, mais bon, très bien.
On sera encore au micro de France Culture pour en rendre compte.
Donc, très bien. Donc, en fait, c'est des affaires pas sérieuses, on s'affole pour rien. Tu as raison.
Il y a deux discours. Il y a effectivement un discours militant qu'il faut soutenir pour la défense de l'environnement, mais on peut parler clairement des phénomènes. Et je trouve que s'omnibuler sur la forêt amazonienne et pas voir les choses d'une façon beaucoup plus globale, c'est pas forcément... une bonne chose.
François-Michel Letourneau, départagez donc nos amis. Est-ce que vous pensez qu'à plus court terme, on va pas véritablement regarder à 500 ans d'aujourd'hui, mais dans les mois, les années qui viennent, est-ce que vous pensez que la pression internationale, malgré l'ombre portée de Donald Trump, ce nouveau président brésilien qui prend donc ses fonctions dans 3 jours, est-ce que l'enjeu d'image dont vous nous disiez tous qu'il était important jusqu'à présent pour le Brésil, est-ce que cet enjeu d'image internationale peut encore servir à protéger relativement l'Amazonie, même si on comprend bien qu'il y a aussi des besoins de développement?
Oui, je pense qu'il y a 3 points là-dessus. D'abord, l'enjeu international, il reste important, la preuve. Le président récemment élu voulait supprimer le ministère de l'Environnement et il n'en a rien fait. Alors, bien évidemment, il y a une vision de l'environnement et du rôle du ministre qui n'est pas celle qu'auront les écologistes. Mais enfin, néanmoins, ça prouve qu'il y a des symboles auxquels ils ne veulent pas aller. Et de manière intéressante, les gens qui ont beaucoup poussé pour que ce ministère de l'Environnement continue d'exister, ce sont justement les producteurs, les grands producteurs de produits agricoles. Il y avait même peur d'avoir des boycotts sur les marchés européens à cause d'une mauvaise image du Brésil. Mais je pense que la deuxième chose, c'est pour revenir sur le débat qui a animé les deux personnes en plateau, la première chose, c'est qu'il y a quand même un point de collapse écologique de l'Amazonie qui est sans doute assez proche. Donc on est autour de 20% de la surface amazonienne déforestée. Alors selon les calculs, et c'est un calcul très difficile à faire, mais il est possible qu'au bout d'un moment, la raréfaction de la forêt entraîne une modification du régime des puits, ce qu'on est en train de voir. Et cette modification du régime des puits peut entraîner un véritable collapse de l'écosystème. Et donc, la forêt amazonienne, le système ne fonctionnera plus. Elle va se transformer en autre chose. Alors, bien sûr, il y aura autre chose, mais sans doute de beaucoup moins riche. Et le deuxième point que je voulais faire, c'est qu'en fait, le problème qu'on a jusqu'ici, c'est que on n'a toujours pas inventé, enfin, on est toujours dans le même dilemme entre utiliser la forêt, les ressources naturelles, ou la préserver, et on n'a pas trouvé ce que les Amérindiens, eux, savaient faire, c'est-à-dire utiliser la forêt en la préservant. Et c'est beaucoup plus ça qu'il faudrait qu'on soit capable de faire que d'essayer d'arbitrer entre deux choses qui, de toute manière, vont dans des directions tellement contradictoires qu'on ne peut pas trouver la bonne place du curseur entre les deux.
Et ce qu'il faut espérer, évidemment, c'est que l'écosystème, lui, il continue à se transformer. Est-ce qu'il se détériore nécessairement ou est-ce que la transformation engendre sa propre...
L'Amazonie est en une transformation permanente depuis qu'elle existe et elle n'a pas toujours été forêt. Cela étant, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que si les transformations continuent à se produire au rythme où elles se produisent et avec l'aide de la déforestation, on aura probablement un écosystème qui remplacera la forêt amazonienne, qui sera différent, qui maintiendra des zones de forêt, bien évidemment, mais qui aura aussi de grandes zones de savane et qui sera probablement beaucoup moins riche. Or, ce que l'Amazonie peut nous proposer, c'est justement une diversité biologique extrême. On parle beaucoup des arbres, des plantes et des animaux, mais il y a aussi une diversité microbiologique qui est absolument fantastique et complètement inconnue. Et donc voilà, on est une espèce d'énorme bibliothèque du vivant et on fait tout notre possible pour la détruire, c'est un peu dommage.
Pour vous, quelle serait, au niveau international, la meilleure manière de faire pression tout en respectant, encore une fois, les priorités nationales que le prochain gouvernement brésilien ne manquera pas de définir?
Oui, là je pense qu'il faut qu'on regarde de notre côté ce que nous disent souvent les Brésiliens. Il y a deux choses. La première, c'est que il va falloir, si on veut de la protection de l'environnement, il va falloir accepter de payer pour protéger l'environnement, ce qui vaut également pour la Guyane française d'ailleurs. C'est-à-dire que le développement économique qui ne sera pas réalisé à partir de la transformation de la forêt devra être indemnisé d'une manière ou d'une autre, et ça vaut pour tous les pays du monde. On retombe sur les négociations du protocole de Kyoto et toute la question de savoir et qui va payer pour changer de modèle.
Qui va payer comment est-ce qu'on mesure le coût?
Voilà, c'est un grand problème. Mais comment est-ce qu'on mesure le coût de quelque chose qui ne se produirait pas pour l'indemniser? C'est bien évidemment une question énorme, mais je pense qu'elle est tout à fait centrale. La deuxième question, c'est que je pense que en tant qu'Européens, on peut aussi s'interroger un petit peu, comme le rappelait Catherine et Florent, on a quand même des mesures de protection en Amazonie. Bon, quand on possède une propriété en Amazonie, selon la loi, on n'a pas droit d'en déforester, donc de changer la végétation sur plus de 20% de la surface de sa propriété. Quel est l'agriculteur européen qui dispose de restrictions pareilles sur son terrain, ou américain d'ailleurs? Donc voilà, on en demande beaucoup aux Brésiliens et on ne fait pas forcément le ménage chez nous avant de commencer à leur demander de faire des efforts.
Très rapidement, d'un mot, le mot de la fin, on est à la conclusion de cette émission, Florent Collet.
Une citation d'Einstein qui m'est passée sous les yeux aujourd'hui, on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. La valorisation économique des écosystèmes ne marchera pas, la question de qui va payer ne marchera pas, on sait pertinemment que personne ne paiera. Il faut changer de paradigme et, encore une fois, c'est le judiciaire qui doit s'emparer, non pas à l'international, mais au niveau national. Les citoyens doivent se mobiliser et s'adresser aux cours suprêmes si elles existent.
En tout cas, cette citation d'Einstein me paraît parfaite pour conclure nos émissions de cette année 2018. Donc, merci à vous, Florent Collet, anthropologue, maître de conférence à Tours, membre du Conseil national de protection de la nature. Vous avez contribué à l'ouvrage collectif dirigé par François-Michel Letourneau sur l'Amazonie brésilienne. Merci à vous, monsieur Letourneau. Vous allez publier, donc, dans quelques semaines, l'Amazonie, ce sera en mars, l'Amazonie, un contresens occidental aux édition CNRS. Catherine Aubertin, vous avez publié L'invention du biome Cerrado. On a bien compris que c'était la région qui vous tient à cœur. Je remercie aussi, bien sûr, Madame Nelly de Mello-Terry, qui a publié en 2017 Politique environnementale brésilienne, invention et réalité. Merci à Martine Droulers, qui a dirigé toujours avec François-Michel Letourneau, l'Amazonie brésilienne, développement durable en 2011 chez Belin. Merci et bravo à Éric Scholl pour toute cette année que nous avons travaillé de conserve, ainsi bien sûr qu'à Luc-Jean Reynaud, Jean-Frédéric à la technique ce matin, Meryl Moneghetti qui prépare avec énergie nos émissions tout au long de l'année et qui va s'empresser de compléter sur notre site internet toute la bibliographie nécessaire. Il me reste à vous remercier de nous avoir été fidèles de plus en plus nombreux tout au long de cette année 2018. Et bien sûr, nous vous donnons rendez-vous dès le 5 janvier prochain. C'est un samedi, bien sûr, de 11h à midi avec tous nos vœux. Très bonne année.